écrit l'ICI avec le CIALA. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Yvonne Endurant.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs reçoit aujourd'hui Yvonne Endurant pour son recueil de nouvelles intitulé La quatrième symphonie, paru en 2023 aux éditions E. Merci Yvonne d'être avec nous aujourd'hui. Quatrième symphonie s'inscrit dans un parcours d'auteur, hein, puisque tu as ton actif de la littérature jeunesse avec Disparition, Magicienne des eaux, Corélia, mais aussi un roman qualifié d'un roman écolo, Naoned, et puis des poésies, certaines publiées, d'autres qui ne l'ont pas encore été. Alors pour commencer notre question fétiche, quelle place l'écriture pour toi dans ta vie, dans tes activités voilà.
L'écriture, pour moi, a une place très, très importante. J'ai une activité professionnelle à côté, mais je dirais que l'écriture a le même poids, la même importance que mon activité professionnelle, sauf que je ne peux pas y consacrer autant de temps, malheureusement. Donc, j'écris quand je peux. J'essaye de grappiller du temps le matin avant d'aller travailler ou à d'autres moments. Mais c'est important. Ouais, l'écriture pour moi est importante et je crois que ça a toujours été important, comme la lecture.
D'accord.
Pour moi, ce n'est pas dissocié. Je suis une grande lectrice et j'aime aussi j'aime écrire. Peut-être que ce que j'aime, ce sont les mots en fait. Les mots, les histoires aussi, mais les histoires bien écrites avec du style.
D'accord. Merci beaucoup.
Alors, dans la quatrième symphonie, Yvonne Endurant plonge le lecteur dans la vie d'un EHPAD. Les 20 nouvelles, finement croquées, révèlent 20 histoires de vie et de fin de vie. 20 personnes, certaines tristes, d'autres sereines, drôles, émouvantes, jalouses, rebelles, amoureuses. Une micro-société dans laquelle le personnel soignant joue un rôle essentiel.
Alors, comme vient de le résumer Martine à l'instant, c'est vrai que c'est un livre plein d'humanité, des nouvelles un peu comme des éclats de vie. Hein, c'est vraiment fort agréable. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce thème ? Comment t'en es venue à écrire sur la question de la vieillesse, on va dire, ou de la vie dans les EHPAD ? Alors après, tu nous diras quel est le thème.
Ouais, c'est en fait une histoire assez étonnante. C'est la dernière histoire, la dernière nouvelle, l'histoire de Jules, qui m'a été racontée. Alors, pas racontée comme ça, on m'a raconté une anecdote, on m'a raconté la fin, et on m'a raconté le pourquoi. Et c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire, mais je ne savais pas encore comment, ce que j'allais faire de cette histoire-là. Mais j'avais envie de l'écrire, j'avais envie qu'elle soit contée, qu'elle soit racontée. Et je me suis dit, pourquoi pas une nouvelle ? Pourquoi pas des nouvelles, mais du coup, avec quoi ? Et j'ai commencé à parler à mon entourage de ce projet. Et en fait, on m'a raconté des anecdotes. Beaucoup d'anecdotes. Et je me suis dit, ouais, là, il y a des choses intéressantes à faire. Et alors, c'était toujours des anecdotes, ce n'était pas des histoires complètes, c'était des bouts d'histoire, en fait. Toujours sur ces personnes très, très âgées. Et du coup, comme j'avais ce projet en tête, eh bien, j'étais attentive en fait, au sujet autour de moi. Et un jour, je lis dans un journal l'histoire d'une dame, d'une très vieille dame, qui a décidé de tout quitter de tout vendre et de s'acheter une cabine de bateau sur le Queen Mary II. Je me suis dit, waouh, ça y est, là je peux écrire, je peux commencer à écrire.
Alors justement, enfin, excuse-moi, Dada, non, vas-y. On avait pensé en parler justement de cette dernière nouvelle là. Parce que forcément, elle ne peut pas laisser indifférent quoi, ce couple qui se forme dans l'EHPAD, en fait, ils tombent amoureux, et la famille, enfin la fille, la chinque, pour le coup, qui refuse ces des derniers instants de bonheur, on peut dire, à son père. Quoi. C'est quand même... c'est incroyable. Quoi.
C'est incroyable, c'est une histoire vraie.
Ouais.
Après, moi, j'ai romancé, comme toutes les nouvelles, j'ai romancé un travail d'écriture. C'est comme je le disais précédemment, je n'avais que des bouts d'histoire ou des fins. Là, en l'occurrence, une fin d'histoire. C'est une histoire que j'ai trouvée absolument terrible et absolument belle et romantique aussi. Et oui, ça, c'est... Alors, les histoires d'amour en EHPAD... Ça existe, c'est pas si rare que ça.
Non.
Celle-là est exceptionnelle. On va peut-être pas raconter la fin, parce que si quelqu'un veut la lire, voilà, c'est peut-être mieux pas raconter la fin. En tout cas, cette famille a eu, cette fille-là a eu peur. Peur de quoi ? Finalement, il n'y avait pas de raison, en tout cas pas de raison financière ou de raison qui pourrait amener à vouloir protéger son père ou protéger un héritage. Là, il n'y avait pas ces raisons-là, puisque voilà, le monsieur était en EHPAD, c'était la fille qui gérait ses biens. Et oui, c'est assez incompréhensible, parce que les soignants, la directrice de l'EHPAD est intervenue, il y a eu des interventions, il n'y a rien eu à faire.
Mais est-ce que ça rencontre pas peut-être un peu, on parle beaucoup de ces questions, justement, l'amour, la sexualité dans les EHPAD. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec une vision de la vieillesse que l'on a, c'est-à-dire que des choses s'arrêteraient quand on cesserait d'être des personnes pleines et entières?
Mais complètement. Mais c'est tabou. La sexualité des personnes âgées est tabou. Et pas que. Souvent,
la sexualité des parents.
Des parents. Alors, c'est normal que la sexualité des parents soit tabou, mais celle des personnes âgées en général, il ne s'agit pas de l'étaler, mais qu'elle puisse être vécue. En plus, ce n'est pas la même sexualité, voilà. Mais ça a sa place. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, mais les personnes dans le recueil, il y a un couple, monsieur et madame Legendre, et qui ont eu du mal à trouver... il y a un autre couple, il y a Gisèle et son mari. Et en fait, c'est très compliqué pour un couple de trouver une chambre. Souvent, on propose de séparer les personnes. Et pourquoi les séparer ?
Tout à fait. C'est des vraies questions d'actualité, hein, sur la manière qu'on a de traiter, effectivement, la vieillesse.
Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai voulu écrire ce livre. C'est parti de l'histoire de Jules, mais je trouve qu'on réduit trop les personnes âgées, les personnes du quatrième âge, à des vieillards, à des besoins uniquement primaires, comme si ces personnes-là n'avaient pas eu de vie, n'avaient plus de sentiments, n'avaient plus d'émotions, et avait juste la nécessité de manger, de boire, d'être propre, des besoins primaires et vitaux, bien sûr, mais elles ont aussi d'autres besoins.
C'est ce qu'on ressent bien dans le...
C'est aussi autre chose.
Alors, j'avais une question aussi sur les traits. Alors, c'est parfois drôle, parfois moins drôle, parfois triste... ou nostalgique, mais il y a quelque chose de vraiment d'une grande justesse, en fait, du trait de nos contemporains plus âgés. En termes de travail, j'ai envie de dire, alors une question un peu peut-être difficile, comment on arrive à cette justesse-là, en fait, quand on écrit ?
Par l'observation de l'humain. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, d'être à l'écoute et d'être... de regarder, d'observer les... Mais même enfant, j'aimais observer les adultes et écouter ce qu'ils disaient. Je ne comprenais pas toujours tout, mais j'aimais beaucoup. J'ai toujours trouvé ça fascinant de l'être humain. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant au monde que l'être humain.
Alors, le titre du recueil, c'est la 4e symphonie. Et donc, dans une des nouvelles, là, qui s'appelle Le piano, donc, on fait connaissance avec cette jeune femme qui joue en boucle, on peut dire, hein, la 4e symphonie. C'est un choix par rapport à ça, ou j'imagine, ou pourquoi ce choix-là de cette nouvelle, en fait, puisqu'il y en a quand même 20
La 4e symphonie, c'est une musique à la fois romantique et dramatique. Et c'est une musique dans laquelle il y a une force absolument inouïe. Elle est très, très puissante. Et c'est ça que j'avais envie de traduire, de faire émerger dans mes nouvelles, dans les histoires que je raconte. C'est cette force, cette vitalité, en même temps cette fragilité, cette mélancolie et ce côté dramatique aussi.
Oui. Alors, c'est l'heure de la pause. Donc, Yvonne Endurant a choisi donc la 4e symphonie de Brahms, justement. Nous allons entendre le début. Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Siala écrite ici. Nous sommes en compagnie de Yvonne Endurant pour son recueil de nouvelles, la 4e symphonie.
Donc, tout à l'heure, on parlait de la question de la vieillesse, de la question de la sexualité de la vieillesse, mais j'ai envie de dire, avoir travaillé sur cette question-là, est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues justement sur notre manière de traiter cette vieillesse, et tout particulièrement dans les établissements, puisque il y a eu un certain nombre de scandales, c'est assez décrié, ce sont des lieux où on dit effectivement que les personnes y vont en dernier recours. Enfin, est-ce que toi, ça t'a permis de voir émerger d'autres choses ou sur ces questions-là?
Alors, moi, j'ai fait un travail un peu particulier sur le sujet. Je fais un travail de création, je fais un travail littéraire. Et donc, j'ai fait des choix. J'ai choisi de, non pas d'éluder, mais de donner à voir autrement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages, des ouvrages, des témoignages ou des livres aussi, écrits sur les dysfonctionnements des maisons de retraite médicalisées. Et heureusement que ça existe, heureusement qu'il y a eu encore, je crois que c'était l'an dernier, un scandale. Ces scandales doivent être dénoncés, absolument, c'est terrible. Et ça se passe en plus dans des lieux de vie de personnes qui sont en grande, grande fragilité. Et c'est absolument inadmissible. En ce qui me concerne, ce n'est pas ça que j'ai voulu raconter, parce que c'est fait par d'autres personnes, c'est bien fait. Moi, j'ai voulu donner à voir des moments, des petits moments du passé ou du présent, un peu comme un photographe ou comme un peintre, juste des moments. Et j'ai eu envie de sublimer ces moments, donc de façon artistique.
En même temps, dans ces moments, on a quand même une idée de la vie, enfin, en tout cas pour certaines. Je vois par exemple la grande bourgeoise, là, en quelques pages, en fait, tu brosses l'essentiel de sa vie, quoi. Et puis il y a toutes les relations aussi entre les personnes, quand même. Parce qu'on voit bien que les relations ne sont pas toujours faciles entre les résidents, on va dire.
Mais c'est un lieu de vie comme un autre.
Mais voilà, c'est un lieu de vie, ouais.
Et d'ailleurs, il y a un personnage alors que j'ai créé de toutes pièces.
Ah oui, il y en a qui a créé vraiment...
La peste. Ah. La peste. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, la peste, ce sont les autres résidents qui la surnomment ainsi, parce que... Elle est détestable, elle est odieuse. Et en fait, j'ai mis une note de bas de page. J'explique en fait que cette dame souffre très probablement de ce qu'on appelle le syndrome de... C'est nommé maintenant le syndrome de Tati Daniel. Parce qu'il y a eu un film éponyme. Cette dame, c'est un personnage, mais elle souffre en fait d'une dépression masquée. Comme beaucoup de personnes âgées, en fait. Enfin, beaucoup. Plusieurs personnes âgées souffrent de dépressions masquées. On a l'impression qu'elles sont méchantes. Et en fait, elles sont dépressives. Et la dépression n'est pas forcément diagnostiquée. Certaines personnes peuvent cacher aussi leur dépression par le rire. Ce n'est pas uniquement les personnes âgées, d'ailleurs. Mais on retrouve ça chez les personnes âgées. Et là, c'est cette... Ce personnage-là, oui,
Je me suis demandé si, en fait, elle n'avait quand même pas eu... elle n'était pas déjà comme ça un peu avant et que c'est exacerbé par... peut-être sa dépression,
on ne peut pas savoir. C'est un personnage de papier en même
temps. Oui, c'est vrai.
Elle n'existe pas.
C'est vrai.
Dans les nouvelles aussi, en tout cas, moi, à la lecture, j'ai noté les arts comme un élixir de jouvence. Et la relation, bien sûr, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, qui est aussi un élixir de jouvence. Les arts sont assez présents sur la musique, le dessin, la peinture. Enfin, il y a quelque chose autour de cette question-là. Là aussi, c'est un choix littéraire. Mais quand même, y a, je trouve en tout cas en filigrane cette question qui, moi, me traverse par ailleurs, où j'ai toujours cette sensation que la question artistique permet peut-être de maintenir quelque chose de vivant, y compris quand on est très vieux ou quand on travaille la mémoire, par exemple, on se rend compte que les gens ont oublié des choses, mais savent danser, continuent à savoir jouer du piano.
Complètement.
Fabuleuse, quoi.
D'ailleurs, on dit la mémoire, mais il n'y a pas une mémoire. Mmh. Ce sont des systèmes de mémoire. Et justement, quand les personnes, ce qu'elles perdent en premier, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. C'est-à-dire la mémoire des noms, la mémoire des événements dans le monde, des connaissances sur le monde. Et en revanche, il y a une mémoire, même deux ou trois systèmes de mémoire qui fonctionnent très bien. C'est la mémoire procédurale, justement savoir danser, savoir peindre, ça fait appel à la mémoire procédurale. Et ça, on le garde très longtemps.
D'accord.
De même que la mémoire autobiographique, la mémoire épisodique, la mémoire autobiographique, la mémoire de ses... D'ailleurs, il y a une dame dans la nouvelle La Fugue.
Elle est
fabuleuse.
Alors là encore, je ne peux pas trop raconter parce que sinon, les lecteurs ne pourront pas avoir le...
Mais elle est fabuleuse, on vous le certifie.
Et là, on voit qu'il y a toute la mémoire. C'est une personne, évidemment, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, ça on l'a compris. Et pourtant, toute sa mémoire n'a pas fichu le camp. Il reste, et c'est la mémoire autobiographique qui est là. Qui va lui permettre de vivre une aventure assez incroyable quand même.
Tout à fait, tout à fait. Et qu'on ne prête pas en tout cas sous cette forme-là à des gens du quatrième.
Oui, c'est pour ça que ça c'est pas. Alors même s'il y a quelques nouvelles qui sont quand même plus dures, mais comme celle avec les petits enfants là, il y en a une, voilà. Mais sinon, il y a des nouvelles qui sont drôles, qui sont. Il y a Widelmour, il y a voilà.
La nouvelle avec le petit-fils, avec l'arrière-petit-fils.
Oui. Ouais.
Ah, je ne sais pas de laquelle vous parlez.
Si, c'est ça.
De l'arrière, parce qu'il y en a deux avec l'arrière-petit-fils. Ah oui, il y en a une, effectivement, qui est très... Oui, qui...
Il y a grand-mère.
Oui, c'est ça, c'est grand-mère est plus dure. Celle qui s'appelle Paolo, par exemple, est une belle histoire. Enfin, elle se termine bien.
Tout à fait. Est-ce que, alors, peut-être c'est une question qui n'a pas lieu d'être, mais parmi ces personnages, alors ceux que tu as créés, ceux que tu as rencontrés, peut-être, et que tu as magnifiés, ou... est-ce qu'il y en a vraiment un ou une qui vraiment t'a... Si tu devais choisir un de tes personnages ou un autre personnage, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ?
Il y en a plusieurs, je dirais. En fait, je les aime tous. Je les aime tous, mais il y en a quelques-uns qui, effectivement, qui me touchent particulièrement. Mmh. C'est Jules. Mmh. Évidemment, tous les prénoms ont été
modifiés.
Changés, hein. Jules, mais aussi Valentine, la petite fille du piano qu'on retrouve... Et ce piano existe. Et il n'est pas loin d'ici.
C'est vrai. Ah oui, ça c'est...
Il n'est pas loin d'ici. Oui. Je ne peux pas dire le nom, je suis allée voir à l'EHPAD. D'accord. J'ai demandé à aller voir. J'ai vu le piano.
Et tu en as écrit d'autres ou tu as fait un choix parmi un certain nombre d'autres ou non ?
J'ai pratiquement tout gardé parce que je trouvais que tout ce que les gens me livraient, ça avait une importance, ou ça avait de l'importance pour eux, puisqu'ils me les donnaient, ils m'en faisaient cadeau, avec aussi l'envie que j'en fasse quelque chose. Parfois, les gens me parlaient de leur, de visite en EHPAD de leurs parents, et ils se passaient, alors ils ne me parlaient pas directement de leurs parents, mais ils parlaient de ce qu'ils avaient entendu ou vu. Donc il fallait que j'en fasse quelque chose. Enfin, en tout cas, j'avais envie d'en faire quelque chose. Parfois, je ne savais pas quoi en faire parce que c'était trop court. Et il y a une nouvelle, justement, où j'ai rassemblé beaucoup de petites anecdotes qu'on m'a livrées. C'est l'anniversaire.
Ah oui.
D'accord. Sinon, alors, il y avait quand même aussi une nouvelle, là, parce que, bon, il y a tous les personnes âgées, puis il y a le personnel aussi. Et donc, il y en a une qui était assez étonnante, c'est les deux stagiaires, là. qui... Bon, alors, je ne sais pas si c'est... de l'imagination, mais j'imagine que
non, ce pas
complètement,
pas
parce que ça peut.
Et je connais les deux.
Pour imaginer ça, ça
doit... je connais les deux stagiaires, donc je ne pourrais pas trop
d'accord.
en dire, mais je peux vous assurer, les deux stagiaires, elles ont existé, et cette histoire était trop drôle pour ne pas être racontée.
Ouais. D'un autre côté, ce qu'elles disent à propos de l'architecture de l'EHPAD, de faire des lieux plus confortable, plus cosy, plus... Enfin, moi, je connais pas bien les EHPAD, mais enfin, d'après ce que j'en sais, c'est pas non plus une mauvaise idée, quoi.
Bien sûr que non, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai qu'il manque, des espaces comme ça, des espaces confortables, des espaces... Il y a souvent des espaces pour les grands groupes, pour les animatrices, ou des gens qui viennent de l'extérieur, pour des grands groupes, pour des jeux de balle, pour des exercices physiques. Et il manque
des petits lieux comme ça,
parce que beaucoup de résidents ne peuvent pas participer à des grands groupes, parce que pour X raisons de santé, ne peuvent pas participer. Et c'est intéressant d'avoir dans beaucoup d'EHPAD des petites pièces comme ça, des petits endroits cosy pour accueillir une personne, deux personnes, voire trois personnes maximum. Et là, elles avaient trouvé.
Tout à fait.
On ne va pas dire.
On ne va pas dire, mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle-là, c'est effectivement quelque chose d'un peu naïf, de très drôle, mais ça dit aussi quelque chose de comment on conçoit l'accueil. Il y avait quelque chose d'un peu du côté du bon sens.
Oui.
Et qui, plutôt qu'empêcher l'activité, c'était de trouver comment trouver une place pour que cette activité puisse se faire sans déranger les autres. Donc, c'est vraiment, dans la démarche, c'est vraiment, vraiment très intéressant, quoi. Donc, peut-être avant de conclure notre interview, peut-être ton actualité. D'abord, parce que nous, on a lu ce livre, on a des attaques, un peu partielles et partiales. On a des dadas, donc peut-être qu'il y a des choses que tu auras envie de dire sur ce livre que nous n'avons pas perçues. Et puis la deuxième chose, est-ce que tu as une actualité dont tu as envie de parler avant qu'on se quitte ?
En ce qui concerne peut-être une dernière, dire quelque chose, pas forcément sur ce livre, je crois que vous avez déjà, je vois que vous l'avez vraiment lu, vous l'avez lu attentivement. Donc je n'ai rien à rajouter. En revanche, je voudrais dire quelque chose sur les personnes très très âgées. D'abord, ces personnes très très âgées, c'est nous. Dans le futur. Valentine, Marguerite, monsieur et madame Legendre, Jean Delâtre, etc. Ce sont eux, mais c'est nous aussi. Donc, je trouve que je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne chose de mettre une distance, eux et nous. Et c'est vrai que vieillir, ce n'est pas forcément très drôle, mais en même temps, je trouve que c'est encore le meilleur moyen qu'on a trouvé pour ne pas mourir jeune.
C'est vrai. Bon. Alors, on va arrêter là. Et donc, pour terminer, Yvonne a choisi évidemment la 4e symphonie de Brahms.